Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Lola. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci Priscilla.
Donc, tu as lancé Octopus en décembre 2019.
Oui, pour le lancement presse, ouais.
D'accord, c'est le lancement de presse et le lancement...
La création officielle, c'était en août 2019.
D'accord. Et dedans, on peut y retrouver deux personnes que j'ai aussi interviewées dans la saison 1. Adrien, qui a fondé New and You, et Lisa, qui a fondé Lao. Et vous êtes combien de fondateurs ?
8 cofondateurs Octopus. Du coup, on retrouve le 8 dans Octopus.
Ah oui. Votre ONG me parle énormément, surtout sur l'aspect solution complète pour sauver et préserver les océans, qui m'inquiète moi énormément. Et je trouve que c'est un peu le fléau du siècle.
Oui, bah c'est vrai qu'on est parti d'un constat avec l'ONG que la pollution plastique, elle était omniprésente, mais surtout que l'information, elle n'était pas accessible. Donc en créant cette ONG, on a vraiment vulgariser un savoir technique et on intervient sur différents types de pollution océanique.
Monter une ONG, c'est pas anodin. Comment tu t'es lancé en fait dans l'aventure ?
Comment je me suis lancée dans l'aventure, c'est une bonne question. Moi, je suis issue à la base d'un cursus juridique. Donc, j'ai fait une licence en droit franco-allemand. J'avais envie de me lancer dans la finance pour gagner pas mal d'argent. Puis, j'ai découvert le droit humanitaire qui m'a passionnée. Du coup, j'ai fait un master en droit des conflits armés. Je me suis spécialisée dans les réfugiés et j'ai découvert les réfugiés climatiques. On en parle pas mal en ce moment. J'étais envoyée en mission en Grèce. J'ai été confrontée à la pollution plastique. Quand on travaille dans les camps de réfugiés, on a souvent ce qu'on appelle des dispos. Du coup, on m'a envoyée en Martinique où là, j'ai été confrontée à l'impact de cette pollution plastique sur la biodiversité marine. Et rapidement, je suis tombée complètement amoureuse de la richesse qu'on a, du corail, des animaux marins. Et j'ai décidé de rentrer en France pour créer Octopus et préserver activement la biodiversité marine et lutter contre cette pollution plastique.
Donc tu l'as porté tout d'abord seul, le projet ?
Alors à la base, c'est vraiment une initiative personnelle, mais en essayant justement de me lancer dans ce projet-là, disons que j'avais les compétences au niveau juridique pour créer une association, pour la gérer, j'avais un réseau, parce que j'ai travaillé avec la Commission européenne, enfin disons que je sais comment ça marche, mais c'est vrai que quand on crée une association, il faut s'entourer des bonnes personnes, et j'ai eu la chance de voir émerger au même moment le projet d'Adrien Collot, du coup, que tu as aussi interviewé sur New and You, qui crée sa marque de crème solaire, et du coup on avait des engagements qui étaient similaires, on s'est rejoint sur ce projet-là, et de fil en aiguille, on a réussi à impliquer de la famille et des amis dans le projet. Donc à l'heure actuelle, on est 8 cofondateurs et énormément de bénévoles et de partenaires qui nous soutiennent quotidiennement.
Et tu fais ça à plein temps ?
Ouais.
Ta dernière action, par exemple, c'était
hier. Ouais. La dernière action, c'était hier, c'était avec 40 étudiants de l'INSA. On a fait une dépollution dans le quartier du Port du Rhin, où on a notre antenne d'ailleurs de valorisation des déchets plastiques. Et on a ramassé 1,5 tonne de déchets. Donc quand même, belle perf, on est très contents.
Vous faites ça régulièrement ?
On essaye de faire le plus souvent possible des nettoyages. Après, c'est vrai qu'avec la conjoncture, c'est compliqué, mais globalement, on aimerait pouvoir faire ça une fois par semaine, soit au niveau local à Strasbourg, soit au niveau national auprès de nos partenaires. Et on a aussi des partenaires partout en Europe. Donc, en gros, la fréquence, ça serait une fois par semaine, dont deux fois à minima par mois à Strasbourg.
Et comment tu trouves les personnes pour t'aider ?
Alors on a un beau réseau quand même, que ça soit nos partenaires, que ça soit les personnes qui nous suivent, et puis tout simplement il y a un intérêt qui est certain. Quand on crée des événements Facebook pour proposer des ramassages de déchets, c'est toujours suivi par pas mal de personnes. Donc on n'a pas de mal à mobiliser, simplement voilà, avec la pandémie actuelle, on n'a pas forcément l'autorisation de faire autant de dépollution qu'on voudrait le faire, mais on a quand même le soutien de la ville. Quand bien même des fois c'est compliqué d'organiser les opérations, ils nous soutiennent toujours pour ramasser les déchets derrière, donc on est plutôt content de ce qu'on arrive à faire malgré la situation.
Ouais, parce que réunir 49 personnes, c'est pas compliqué.
Du coup, c'était à l'initiative des étudiants. Donc, on va dire que c'était une initiative privée qu'on a accompagnée pour mettre à disposition le matériel, parce qu'il faut savoir qu'on organise nos propres opérations, mais on soutient aussi celles de tout un chacun. Donc, ça peut être une entreprise, un groupe d'étudiants, une association, une école, un centre socioculturel, peu importe. Nous, on peut mettre à disposition le matériel pour faire le nettoyage, et puis aussi accompagner, expliquer, faire la quantification des déchets derrière. Donc, voilà, là, c'était une initiative qui était entre guillemets privée, qu'on a soutenue, mais on va organiser aussi nos propres opérations dès qu'on pourra le faire.
Ça ralentit un peu, je pense.
Ça ralentit un petit peu, mais au-delà de ça, on part du principe que le plus important, c'est d'être au courant de ce qui se passe. Donc c'est vrai que les opérations de nettoyage, elles permettent d'être confrontées directement à la pollution, mais il n'y a pas simplement ramasser les déchets qui permet de comprendre ce qui se passe. Il y a aussi en parler, se réunir. Encore une fois, se réunir, c'est compliqué, mais avec notre antenne de valorisation des déchets qui est visible à la COP au port du Rhin, on peut déjà accueillir du public et sensibiliser par un biais concret sans forcément faire de ramassage.
Vous faites que la valorisation des déchets, du ramassage ou encore d'autres choses?
Alors, en gros, Octopus, on intervient sur deux thématiques. D'abord, la prévention de la pollution, dans les types de pollution sur lesquels on travaille, il y a la pollution plastique, d'où l'organisation de ramassage de déchets. Les déchets qu'on va collecter, on va les valoriser en circuit court, ce qui veut dire qu'on a des machines low-tech, donc qui ne nécessitent pas un apport d'énergie conséquent, qui permettent de transformer les déchets en de nouveaux objets. Donc ça, c'est la première pollution à laquelle on s'attaque. Ensuite, il y en a une deuxième, c'est la pollution aux hydrocarbures, donc typiquement les marées noires. On s'est illustré en août dernier avec la marée noire qu'il y a eu à l'île Maurice. Et là, pareil, c'est un procédé low-tech, puisque on récolte des cheveux qu'on
C'est ce que
va.
j'allais dire en plus, c'est pas les cheveux.
Oui, exactement, c'est les cheveux qu'on va pouvoir mettre ensuite dans des collants. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper accessible. Des cheveux, des collants, on fait des boudins de cheveux et ça permet d'absorber les hydrocarbures, puisque 1 kg de cheveux, ça permet d'absorber jusqu'à 8 litres d'hydrocarbures. Donc c'est quand même hyper efficace, sachant que en plus ces boudins de cheveux, à partir du moment où ils sont essorés, on peut les utiliser jusqu'à 7 fois d'affilée. Donc c'est quand même vraiment hyper intéressant comme procédé. Et nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est des actions citoyennes accessibles pour effectivement dépolluer les océans. Donc que ça soit l'apport de vos déchets plastiques directement dans notre antenne pour les transformer en de nouveaux objets, ou vous rapprocher de votre coiffeur partenaire, ou vous nous déposer directement vos cheveux à la COP, puisqu'on est point d'apport volontaire pour les cheveux. Tout ces petits gestes citoyens vont permettre derrière d'avoir une conséquence et un impact positif sur la dépollution des océans. Donc ça, c'est pour la partie prévention, pollution plastique, pollution aux hydrocarbures sur lesquels on s'attaque activement. Et ensuite, on a une partie préservation qui est la réimplantation de récifs artificiels de coraux. Donc c'est pas des coraux artificiels, c'est simplement comme en permaculture, essayer de booster la production du corail qui est en train de dépérir à l'heure actuelle. Donc c'est une thématique sur laquelle on travaille activement et notre premier récif devrait voir le jour en 2021 en Grèce, en Méditerranée.
C'est pas dû à l'acidité des océans que les coraux. Je sais pas si c'est exact ce que je dis, hein, mais que les coraux meurent
Alors, il y
à cause
a
du réchauffement.
différentes raisons par rapport à la perte du corail qu'on a à l'heure actuelle. Il y a l'augmentation de la température de l'eau qui fait que le corail est stressé. Donc après, c'est un petit peu scientifique hein, comme procédé. Mais globalement, quand la température de l'eau augmente, ça va stresser le corail qui est en vérité un mix entre un animal, un végétal et un minéraux. Donc le corail, c'est vraiment quelque chose de très très particulier. Quand la température va augmenter, il va stresser et du coup, il va éjecter ce qui lui permet de se nourrir et qu'il héberge à l'intérieur de lui. Donc c'est des algues qui permettent la photosynthèse, ce qui va permettre de le nourrir. Donc quand il est stressé parce qu'il fait trop chaud, il va éjecter ses algues et du coup, il va dépérir parce qu'il va plus réussir à se nourrir. Ensuite, il y a les différents types de pollution, forcément. Pollution plastique, touristique qui va du coup l'empêcher de se nourrir correctement. Il va y avoir les touristes qui vont marcher sur le corail pour aller explorer les fonds marins. Il va y avoir aussi les intempéries quand il y a une tempête, un tsunami ou tout simplement un bateau qui va passer avec son ancre et qui va défoncer le corail. Il n'y a pas d'autre mot. Tout ça, c'est des causes qui vont avoir un impact certain sur la préservation des récifs. Et les récifs artificiels, c'est justement venir piocher dans ces bouts de coraux qui auront été désolidarisés du récif. Et du coup, on va les récupérer, on va les mettre sur une structure qu'on construit nous-mêmes pour leur permettre de grandir et ensuite de les réimplanter dans leur milieu naturel.
D'accord. J'ai entendu que les coraux, c'était 70% de notre oxygène, c'est vrai ou
c'est faux? Alors, 70% de l'oxygène, c'est un petit peu beaucoup. On a tendance à dire qu'une respiration sur deux, donc 50% de notre oxygène, nous est apporté par l'océan. Et cet oxygène-là, il provient en priorité et il y a une grande partie qui est induite par les récifs coralliens qui permettent de générer en fait un vrai écosystème, d'héberger les poissons, la sécurité alimentaire. Les récifs coralliens, c'est aussi barrière justement quand il y a des tsunamis. Ça permet d'empêcher les vagues d'aller jusqu'au littoral. Donc il y a une vraie utilité à avoir des récifs sains. Mais à l'heure actuelle, on a déjà perdu plus de 40%, donc ça devient important de s'en préoccuper rapidement.
Et pourquoi tu veux le faire en Grèce, le premier ? Parce que t'es allé là-bas et que tu connais la situation ?
Alors pourquoi j'ai envie de le faire en Grèce ? Parce que c'est le pays où j'ai habité et ce que je disais avant, j'ai travaillé dans des camps de réfugiés, j'ai été confrontée à la pollution plastique là-bas, mais au-delà de ça, c'est un pays où il y a énormément d'îles, en Europe en tout cas c'est celui qui a le plus d'îles et qui est le plus impacté par la pollution plastique. Au-delà de ça, c'est un pays européen, la mer Méditerranée, c'est la mer la plus polluée au monde, et il n'y a aucun programme de conservation qui existe à l'heure actuelle, alors qu'en France, il y en a quelques-uns, en Italie, il y en a quelques-uns. Du coup, je trouvais ça hyper dommage qu'en Grèce, il n'y ait rien, alors que c'est le pays qui est le plus impacté par la pollution, et qui a quand même des richesses à préserver. Donc au niveau du réseau, de la cohérence, on a décidé de le faire là-bas.
Et comment tu t'y prends pour dire bonjour, j'ai une ONG, je veux réimplanter les coraux, vous êtes chaud, vous n'êtes pas chaud ? Enfin, tu vois, je me dis que quand tu es dans un autre pays, c'est un peu plus compliqué, quoi.
Alors, encore une fois, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est vrai que le fait d'avoir vécu là-bas, ça m'a permis d'avoir un réseau quand même assez intéressant. J'ai un très bon ami qui a une école de plongée. De père en fils, du coup son papa a créé la première école de plongée en Grèce et en Turquie. Ils sont fondamentalement passionnés par la biodiversité marine, précurseurs aussi dans la préservation du corail. Après, il faut savoir qu'en Méditerranée, il n'y a pas une diversité corallienne qui est énorme, mais il y en a quand même et ça vaut le coup de les préserver. Du coup, ensemble, on s'est dit « bon, on va essayer ». On n'est pas sûr que ça va marcher, mais en tout cas, on réunit toutes les forces vives qu'on a à l'heure actuelle et ça a l'air de quand même plutôt bien se passer. Donc je touche du bois, on va voir si en 2021 on arrive à avoir ce récif qui voit le jour. Mais on a déjà fait un premier test pilote en immergeant dans l'eau ce qu'on appelle un biorock. Donc après c'est des termes un petit peu techniques, mais ce petit biorock qui est en forme de tortue, donc c'est une structure en métal, a permis de faire revenir les hippocampes en Grèce alors que ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas vu là-bas en 3 mois. Donc donc il y a quand même des résultats qui sont là. On se dit si avec une petite structure de 3 mètres sur 2, en 3 mois, on arrive à faire revenir des hippocampes alors que ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas vu, avec une structure de 9 mètres sur 5, il y a de fortes chances qu'il y ait des résultats tout aussi positifs. Après, il faut juste trouver les financements, mais on y travaille.
Ah, c'est fou quand même hein, qu'ils soient revenus...
À partir du moment...
J'arrive.
C'est
cool.
C'était assez... on n'y a pas cru au début. On s'est dit, c'est trop bizarre. En plus, Bon, voilà, je sais pas si je serais... enfin, si je dois le dire vraiment, mais c'était quand même un projet entre guillemets illégal, parce qu'il faut savoir qu'en Grèce, voilà, c'est un peu la France des années 70, faut pas forcément demander d'autorisation, donc bon, on s'est dit hop, on tente le coup, au pire, si on nous dit quelque chose, on l'enlèvera. Et du coup, on l'a mis, mais à un endroit à la base vraiment pas prédestiné à accueillir une telle structure, quoi. Et au final, bah voilà, au bout de 3 mois, on voit que les éponges, elles commencent à s'agglomérer à la structure, qu'il y a du corail qui pousse, les poissons reviennent et les hippocampes. Donc on s'est dit, waouh, c'est dingue, si ça marche à un endroit pareil. À partir du moment où on trouve vraiment un endroit un petit peu préservé, bah il y a de l'espoir, quoi, et ça, c'est ça fait du bien.
Et donc, tu es quand même optimiste, toi. Sinon, tu le ferais pas.
J'essaye de rester optimiste parce que je me dis que c'est la seule chose qui nous reste, d'avoir un petit peu d'espoir et d'essayer tous ensemble de mutualiser nos compétences pour atteindre un objectif positif qui est la protection de l'environnement, parce que je pense qu'on a tendance à oublier qu'une planète en mauvaise santé, c'est un humain en mauvaise santé, c'est... Voilà, y a... enfin, j'ai pas envie de rentrer dans des débats
Tu pas le
où c'est la
moral.
fin du monde.
Tu pas le moral.
Mais oui. Donc voilà, je pense que garder espoir et essayer chacun à notre échelle de prendre des décisions et d'adopter des gestes simples qui peuvent faire la différence, c'est déjà la moitié du chemin. Ensuite, nous, chez Octopus, on a vraiment deux valeurs. C'est ludique et déculpabilisant. Vraiment, il faut pas se sentir responsable de la crise actuelle, parce que quand bien même on va plutôt choisir une bouteille en plastique à une gourde, la question se pose de savoir pourquoi en 2021 il y a encore des bouteilles en plastique qui sont produites. Donc il y a des questions qui nous dépassent de... bah, on a vu voilà, ce scandale du plastique à usage unique qui devait être arrêté en 2021 et finalement qui est repoussé à 2040. On voit les masques qu'on retrouve un petit peu partout. Voilà, il y a des choses qui sont produites qui devraient plus l'être, des choses qui devraient mettre en place qui ne le sont pas. Donc, si nous, en tant que citoyens lambda, on perd l'espoir, je pense que c'est le début de la fin. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est le vivre ensemble, la déculpabilisation, parce qu'on a tendance aussi à pointer les gens du doigt, à... voilà, pourquoi toi tu achètes encore ci, pourquoi tu consommes ça, fast fashion, plastique, viande. Au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire, comment, et c'est pas des habitudes qu'on a envie de mettre en place. Nous, on a envie que chacun se sente bah, libre de faire ce qu'il veut et simplement qu'il soit conscient de ce qu'impliquent ses choix.
Ouais, du genre, c'est pas grave, c'était une voiture, mais
Mais est-ce
prends.
que tu sais que la voiture, ça engendre tel et tel type de pollution? Que voilà, peut-être que pour une personne de 80 kilos, déplacer un véhicule qui en fait 2 tonnes, et ben peut-être que pour 10 minutes de voiture, tu pourrais prendre le bus ou le vélo. Enfin voilà, après, c'est juste des petites choses. Mais si pour toi, c'est plus pratique de prendre ta voiture parce que tu rentres tard le soir, que ça te fait peur de traverser Strasbourg à pied. Enfin voilà, chacun a ses raisons. Ses raisons, nous, on va pas les juger, on va proposer des alternatives. Et au-delà de proposer des alternatives, on va juste essayer de faire prendre conscience aux gens que leurs habitudes, elles ont des répercussions sur la planète de manière générale. À partir du moment où tu es conscient de tout ça, libre à toi de prendre tes décisions. Mais nous, on ne viendra jamais culpabiliser qui que ce soit pour ce choix. Et c'est justement aux politiques de mettre en place des alternatives pour que nous, on puisse avoir un panel de choix qui soit étendu pour protéger l'environnement.
Tu dirais quoi à une personne qui veut ouvrir son ONG?
De s'entourer des bonnes personnes, d'avoir vraiment envie de le faire, de savoir pourquoi et d'être vraiment fondamentalement passionné par la thématique que cette personne s'apprête à défendre. Parce que c'est pas facile tous les jours, mais en ayant espoir, on arrive à tout, je pense.
Et justement, c'est pas facile. Est-ce que tu as eu des échecs? Est-ce que tu as eu envie d'abandonner par moment?
Alors, abandonner, non, parce que ça me tient vraiment à cœur et je pense que mon engagement, il faiblira jamais. Par contre, oui, on a eu, je dirais pas des échecs, mais des obstacles qui nous ont un petit peu ralenti dans notre avancée et auxquels on s'attendait pas forcément. C'est vrai que gérer une association, c'est se confronter aux politiques, encore une fois, qui, quand bien même se disent pro-environnementaux, des fois vont te mettre en avant des non-sens et des paradoxes auxquels tu t'attends pas, notamment à Strasbourg. Je disais récemment que voilà, on nous avait opposé le fait que à Strasbourg, le recyclage et la collecte des déchets étaient complètement maîtrisés, alors que en parallèle, on nous dit qu'il y a des quartiers où 99% des déchets ne sont pas récoltés et ne sont pas traités, qu'avec notre petite antenne citoyenne de valorisation, on va faire de la concurrence à des grosses entreprises comme Citeo. Bon, au bout d'un moment, il faut aussi. Enfin, ça fait un petit peu du mal d'entendre des choses comme ça quand, justement, à notre échelle, on essaye de faire bouger les choses. C'est pour ça qu'il faut être fondamentalement convaincu du bien fondé de son action pour pas se remettre en cause soi-même quand des fois on nous met des bâtons dans les roues.
Ouais, c'est ce que tu avais mis sur LinkedIn. Ouais, tu allais créer de la concurrence, ça m'a choqué en fait. Ils ont tout condensé en une fois et ils te l'ont dit comme ça?
Ouais, ils nous ont dit ça comme ça et en plus c'était un petit peu aberrant pour nous parce que je pense qu'on a tous en tête ces images de déchets français qu'on a retrouvés en Malaisie et c'est pour ça que chez Octopus, nous on propose une solution qui permet de garder la main sur le cycle de vie des déchets. Donc si jamais on n'arrive pas à se passer de plastique à usage unique pour X ou Y raison, au moins si vous venez dans notre antenne, vous allez pouvoir le valoriser et repartir avec un objet qui aura été produit grâce à ces déchets-là et vous saurez exactement ce que sera devenu votre déchet plastique. Alors que bah, je pense que chaque citoyen à Strasbourg, à partir du moment où il met sa bouteille en plastique dans sa poubelle jaune, il sait absolument pas ce qu'il va faire comme parcours,
Mais c'est
ce
ça que je
déchet.
me demande si vraiment c'est trié ou c'est pas trié.
Bah ça va dépendre bah justement des services de la ville, de ce qu'ils en font, mais dans tous les cas, quand bien même il serait parfaitement trié et valorisé, il va être valorisé pourquoi? Pour créer une nouvelle bouteille en plastique à usage unique. Donc encore une fois, c'est le serpent qui se mange la queue parce que on va mettre notre bouteille en plastique dans une poubelle jaune. Cette poubelle jaune, elle va être conduite en camion au centre de tri, elle va être triée, elle va être broyée, on va produire un nouvel objet en plastique, mais ça sera encore une fois du plastique à usage unique, et ça met pas fin à cette boucle infernale de la production de plastique, alors que nous, on propose une solution en circuit court, où vous voyez et vous participez vous-même à la destruction de cet objet, enfin du coup de ce déchet, et vous pouvez repartir avec un objet derrière, donc c'est quand même nettement plus intéressant.
Et genre quoi comme objet?
Alors oui, alors nous là à l'heure actuelle on n'a pas énormément de moules, mais on travaille avec différentes antennes, Precious Plastic pour ceux qui connaissent. À partir du moment où on a le moule, on peut tout faire. Alors ça peut passer de la table à la chaise, au carrelage, au pot de fleurs. Là, à l'heure actuelle à Strasbourg, on a des moules pour faire des plaques. Donc des carrés en plastique. On peut faire aussi des sous-bocs, des dessous de plats, on peut faire pas mal de choses.
Donc on va dire que c'est quoi, dans les années 60-70, a été créé le plastique? Un truc
Ouais,
comme
c'est ça.
ça. C'était l'idée du siècle.
C'était la révolution un petit peu, oui, mais.
La pire idée en fait.
Alors, je dirais pas que c'est la pire idée parce que je pense que c'était une vraie révolution. Simplement, ce qui a été malsain, c'est de faire d'une ressource précieuse qui est le plastique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du pétrole, du coup il est extrait, enfin il y a un vrai processus derrière la production de plastique. Par contre, produire du plastique à usage unique, qui a une durée de vie de 3 secondes et qui va mettre 450 années à se détériorer, là ça devient un petit peu plus dérangeant. Après, pour les autres types de plastique, dans le domaine médical, dans l'ameublement, dans différentes choses, la construction, on ne peut pas forcément s'en défaire, en tout cas à l'heure actuelle. C'est sûr que c'est moins coûteux, c'est solide, c'est malléable. Voilà, il y a des propriétés qui sont intéressantes avec le plastique. Mais comme on voit là, emballer une banane dans du film plastique ou les pailles, enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin de paille en plastique pour boire son cocktail? Il y a des pailles en bambou, il y a des pailles en alu, il y a différentes choses. Donc ça a un impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de plastique dont on peut se passer.
Tu rêves de quoi avec Octopus?
Alors, c'est une belle question. Je rêve de pouvoir avoir différents récifs artificiels de coraux en Méditerranée et ailleurs, de pouvoir intervenir sur les crises écologiques type marée noire quand il y en a, de pouvoir dépolluer les ports, de pouvoir proposer aux propriétaires de bateaux de mettre ces boudins de cheveux dans leur cale pour éviter de déverser directement les hydrocarbures dans la mer, de délimiter des zones de baignade sur les festivals et en période de forte chaleur pour pas que les crèmes solaires, qui sont hyper néfastes aussi pour la biodiversité, ne se répandent un peu partout. On a plein de rêves, mais peut-être. Celui inavoué, ça serait simplement de disparaître en tant qu'ONG, parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de besoin. Donc, on a plein de projets dans la tête, mais voilà. Moi, je serais contente le jour où on se dira, il n'y a plus rien à faire parce que tout a été fait.
Ça serait beau, hein. C'est le même rêve que les Restos du Cœur.
Exactement. Oui, bah après,
Attends,
on
mais
n'en est pas
c'est.
encore là,
Non,
mais.
mais bon, ils avaient les stars derrière, ça aidait.
Ah, on avait Hugo Clément quand même, hein.
Ah oui. Avec Octopus.
Ouais.
Ah, c'est sympa ça.
Pour la
Bien.
marée noire à l'île Maurice, justement.
Et vous avez donc envoyé des cheveux, c'est ça?
Alors, quand il y a eu cette marée noire à l'île Maurice, on a réussi à récolter 20 tonnes de cheveux qu'on voulait envoyer à l'île Maurice, et c'est pourquoi on a eu le soutien de Hugo Clément pour pouvoir solliciter l'Élysée, les différentes compagnies aériennes, parce que nous, en tant qu'asso qui avait un an tout juste d'existence à l'époque, compliqué d'affréter deux avions pour aller à l'île Maurice quand
C'est
même.
un doux rêve quand on est millionnaire, tu vois, c'est facile.
Voilà, du coup pour nous c'était un petit peu hors de propos, mais avec différentes négociations, on a quand même réussi à structurer une proposition intéressante, sauf que le gouvernement mauricien était, je pense, pas forcément apte à accepter une aide extérieure, et en plus c'était une question d'urgence. Au moment où on a voulu intervenir, le bateau a été coulé. Donc il n'y avait plus forcément d'utilité à intervenir, et l'île de la Réunion, qui est du coup française, a pris le relais sur la métropole, parce que c'est juste à côté de l'île Maurice, donc même niveau empreinte carbone, nous on s'est retiré à ce moment-là. Mais il y a toujours ces cheveux qui attendent d'être valorisés, de servir à la dépollution, donc on espère bien les utiliser sur un projet de dépollution de l'étang de Berre, qui aura lieu à partir d'avril avec l'ONG Wings of the Ocean. Et d'autres surprises, on ne peut pas en parler tout de suite, mais on compte bien faire de la dépollution avec les cheveux pour absorber les hydrocarbures qui sont présents dans les cours d'eau.
Parce que je me dis, 20 tonnes, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, mais maintenant, à
Ou c'est
l'heure
jamais
actuelle,
assez.
il y en a encore plus, hein, parce que là, on parle de 20 tonnes en août
Ah
2020.
oui.
Donc la collecte continue. Si vous avez justement des cheveux à donner ou un coiffeur qui a envie de rejoindre le mouvement, n'hésitez pas à nous contacter.
J'avais parlé de ça à ma cousine qui est coiffeuse et elle avait regardé une autre association. Et en fait, elle disait, ouais, mais le problème, c'est que les envois postaux, nous, on va mourir. Ça coûte cher.
Exactement, c'est
Ça
la
coûte cher.
raison pour laquelle nous, on va devenir point d'apport volontaire à Strasbourg, et qu'on va multiplier les lieux d'apport volontaire pour que ça soit gratuit. Ensuite, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 22 entrepôts en France où les coiffeurs, pas les particuliers, exclusivement les coiffeurs, peuvent se rendre pour déposer leurs cheveux gratuitement.
D'accord.
Donc pour les coiffeurs qui n'ont pas forcément les moyens d'envoyer les sacs parce que effectivement c'est coûteux, il y a soit ces entrepôts qui sont accessibles, soit les points d'apport volontaires. Donc si vous êtes à Strasbourg, simplement envoyez-moi un message et je vous renseignerai parce que nous on les accepte. Et on est toujours là pour répondre aux questions tout simplement. Donc si c'est quelqu'un qui est en dehors de la région, il faut juste nous envoyer un petit message et on l'orientera vers la bonne personne.
D'accord. On va dire que t'as plein d'ambitions là à court terme. Pour 2021, c'est déjà full.
Ouais, plus ou moins, ouais.
Tu prépares 2022, c'est bon.
On y est doucement, là.
Ouais. Je pense que déjà, finir 2021, enfin, commencer bien et pas avoir un troisième confinement, parce que je pense que quand t'as été confinée, t'as rien fait, quoi. Enfin, t'as dû travailler de chez toi.
On
et
a
faire
déprimé,
là.
Ouais.
Là. Et je me dis, faire du télétravail dans une ONG...
Alors, premier confinement, c'était hyper dur parce que on s'apprêtait, mais vraiment le matin même. Donc, j'ai eu un pressentiment qui m'a fait me dire « ne pars pas ». Mais ça s'est joué à quelques heures. On devait partir en campagne de reforestation en Grèce pendant 6 semaines. Du coup, gros coup dur de ne pas partir. On préparait une campagne de navigation en Méditerranée pendant 4 mois. Pareil, ça a été annulé. Sans compter les salons, les festivals, les événements, enfin voilà, donc gros coup dur. Après, il faut savoir que Octopus, c'était aussi le moment où une partie des cofondateurs devait signer leur contrat, ce qui n'a pas pu être le cas parce qu'on a perdu tous les financements sur l'année à cause du Covid. Du coup, gros coup dur, là, l'équipe est toujours 100% bénévole parce qu'on se remet doucement de la crise. Et je sais pas s'il va y avoir un troisième confinement ou pas, mais en tout cas, on commence à avoir l'habitude et on a décidé de se positionner sur des projets qui pourraient avoir lieu quand bien même il y aurait un confinement. Et là, on travaille beaucoup à la structuration interne de nos réseaux sociaux aussi, parce que nous, on est très opérationnels. Mais la communication, c'est vrai qu'en 2021, c'est important. Donc, nous, c'est un créneau sur lequel on ne s'est pas mis. Voilà, on n'est pas très actifs sur les réseaux sociaux. Notre site internet, il n'est pas incroyable. Mais on va y travailler. S'il y a un troisième confinement, ça nous laissera l'opportunité de le faire. Donc, on verra.
Et depuis que ça a été créé, c'est de quoi tu as été le plus fière ?
Je crois que ma plus grosse fierté, ça a été d'avoir été approchée par l'Institut océanographique de Monaco pour intervenir là-bas, donner des conférences et accompagner des étudiants. Donc ça, c'est quand même une grosse fierté pour une ONG qui a un petit peu plus d'un an d'existence maintenant, qui a vécu une pandémie, qui est gérée que par des bénévoles. L'Institut océanographique de Monaco, c'est vraiment la référence au niveau de la protection de la biodiversité. Donc ça, c'est une grosse fierté. Et puis ensuite, tous les partenaires qu'on a rencontrés, qui nous ont invités sur leurs événements. C'est des petites actions, mais en temps de pandémie, chaque geste compte. Et on est globalement content du résultat de cette année.
Mais en ONG, tu peux être salarié, non ?
Tu peux être salarié, mais il faut avoir des sous.
Oui, mais je me dis, tu travailles à 100% dedans, à un moment, faut être rémunéré.
Quand tu crées ta propre structure, à la base, une association, c'est défini comme un groupement de bénévoles qui agit ensemble pour une cause commune, point barre. Pour se dégager un salaire, il faut rentrer de l'argent. Et cet argent, il rentre en déposant des demandes de subventions. Du coup, il faut que les subventions soient accordées. En temps de crise, c'est limité. Les entreprises qui peuvent plus ou moins financer des opérations ou du mécénat en temps de crise, pareil, elles n'ont pas forcément de visibilité sur leurs revenus, donc elles ne peuvent pas le faire. Et ensuite, le troisième moyen de générer de l'argent, c'est la communauté. Ça va être les adhésions, ça va être les événements. Or, on ne peut pas faire d'événements. Donc les subventions ne suivent pas, si les entreprises ne peuvent pas accompagner le développement de l'ONG et si les citoyens ne peuvent pas se rencontrer, c'est limité. Donc on survit, mais on garde l'espoir.
Ouais, que 2021 se passe mieux, quoi.
Là, on est en pleine phase de recrutement quand même. Il y a des aides, il y a eu un plan de relance, donc on va avoir des alternants, on va quand même créer deux postes, je pense, si on y arrive. Donc petit à petit, on sort la tête de l'eau, mais oui, on ne sera pas encore la Croix-Rouge de l'environnement de demain, mais est-ce qu'on a envie de l'être? Je pense pas non plus. Donc on va rester à une échelle humaine et en espérant d'avoir un impact concret.
Quel est ton plus grand défaut?
Alors, je pense que des défauts, j'en ai plein, mais mon plus grand défaut, ça va être peut-être le manque de confiance en moi, parce que je vais pas forcément avoir l'assurance de me dire, ok, je vais négocier avec telle et telle ponte, par exemple à l'Institut océanographique de Monaco. Moi, c'est un peu voilà, la référence. Et quand ils m'ont approché, je me suis dit, mais j'ai pas la légitimité pour faire ça. Enfin voilà, petit manque de confiance en soi, être aussi un peu dispersé, parce que voilà, la protection de l'environnement, c'est un gros morceau. Il y a plein de sous-thématiques, il y a plein de choses à faire. On est dans une situation d'urgence, donc j'ai un peu tendance à vouloir tout faire et du coup à me perdre un peu dans tout ça. D'où l'importance d'avoir un réseau qui est fiable et une équipe bah, qui me soutient. Donc là, je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus.
Qu'est-ce que tu détestes faire dans Octopus?
Je déteste pitcher le projet.
Normal. En plus, tu l'as pitché 1 milliard de fois.
Bah, en vrai, rien que le mot pitch, je le déteste. Parce que le monde des startups, je l'ai découvert via Adrien et Lisa, parce que moi, je suis vraiment une juriste pure et dure. Et ouais, je crois que ce que je déteste, c'est ça, quand on me dit pitch le projet et ces mots-là que je comprends pas, B2B, B2C, B2J, je déteste tout ça. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi de temps en temps.
Question HS, est-ce que je la garde ou pas, je ne sais pas. Joe, il m'a dit que t'allais te faire incuber à Paris.
Ouais, je suis incubée là déjà. Justement, c'est à cause de ça. À cause de quoi? Bah, c'est ces mots-là, moi je me suis perdue quand on me les
Mais
dit.
c'est génial. Mais attends, mais t'es incubé dans un incubateur de start-up ou un incubateur d'ONG? Je comprends pas.
Alors, c'est Live for Good, l'incubateur. Live for Good, c'est quoi? C'est bah, un incubateur à projet, à impact. On est 70 dans la promo. Ils acceptent les associations et j'ai été sélectionnée un peu en coup de cœur du jury. La première chose qu'on m'a dit, c'est ton pitch, il est horrible.
J'aime pas pitcher.
Il est pas structuré, on n'a rien compris. Mais et c'était la première fois que je pitchais justement.
Mais t'avais déjà pitché, genre, quand t'étais à l'anticafé, etc.
Bah, c'était la soirée de lancement, j'avais expliqué ce qu'on faisait, j'avais remercié les gens d'être là. Mais bon, non, j'avais vite donné le micro à Adrien parce que lui, il adore faire ça. Donc, bon, j'ai tendance aussi à laisser les personnes qui ont des affinités avec les pitchs
T'as
le
raison.
faire. Et là, c'était la première fois du coup à Paris que je pitchais en sachant que bah, y avait un jury derrière qui allait me sélectionner ou pas. Et je crois qu'ils ont tellement eu de la peine pour moi que qu'ils m'ont prise. Mais en me disant que voilà, en fait, gérer un projet, c'était avoir des qualités humaines et que ne pas savoir faire ton storytelling, amener ta cible, ce que tu proposes, etc., etc. C'est pas forcément le plus important quand le cœur y est et que on voit que tu es mu par une motivation qui est intrinsèque. À partir de là, si tu as les bonnes motivations, quand bien même tu vas être maladroit dans ce que tu vas dire, c'est pas grave parce qu'on va te faire confiance. Je pense que le crédit confiance, il est hyper important parce que ça touche aussi de voir quelqu'un qui essaye mais qui n'y arrive pas forcément, mais derrière qui a les qualités et les compétences pour le faire. Donc ça m'a vraiment rassurée en me disant, bon bah ok, dans les startups, ils sont pas non plus requins à vouloir
Oh non, c'est...
trop. Mais du coup, j'ai entendu plein de mots que je ne connaissais pas. Et au final, je découvre aussi toujours. là quotidiennement des nouvelles choses qui m'aident aussi pour la gestion de l'ONG parce que je pense que start-up et ONG, ça n'a pas forcément vocation à être séparés l'un de l'autre, qu'il y a du bon à prendre dans les deux et que faire un mix de tout ça, c'est super intéressant. C'est pour ça que c'est cool pour moi d'être accompagnée par Adrien, Lisa et puis les autres cofondateurs, quoi.
Même être incubé, je trouve ça bien parce que ça fait une structure aussi et un réseau.
De ouf. Ah ouais, au niveau réseau,
Paris en plus,
là c'est cool.
c'est plutôt incroyable, tu vois, quand tu arrives à de Strasbourg aller à Paris, c'est top parce qu'il y a plein d'incubateurs qui aiment pas la province et c'est nul.
Ah bah je suis la salle de Strasbourg,
Ah bah tu vois? Et non, mais la même, non, peut-être pas la salle de France, de enfin, Paris et ça, c'est toujours Paris
alors, il y a
et le
Paris, il y
reste.
a Bretagne, il y en a pas mal de Lyon,
Ah, ça va.
Bordeaux, mais Strasbourg, je suis toute seule.
Non, mais c'est, ça me choque pas parce qu'on est en l'univers start-up à Strasbourg, il est encore bébé. Comparé à Lyon
Ouais, mais après, moi,
ou
je
à
suis une asso,
Lille.
tu vois, donc
Oui,
ça aurait
ouais.
très bien pu être aussi quelqu'un d'autre, un petit projet, je sais pas, mais bon.
Bah, il n'y a pas beaucoup. Si, il y a Green Phoenix aussi qui fait.
Green Phoenix, ouais, on travaille avec
Ouais.
eux, bah, notamment peut-être pour la collecte de cheveux, ils vont vraisemblablement s'en charger à vélo, mais c'est pas sûr, on va voir, on est en pourparlers.
Et la question, est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager?
Anecdote honteuse à partager, bah, je pense que c'est ce que j'ai dit là, de pas comprendre ce que ça veut dire B2C, B2B, ces petits vocabulaires quand on dit pitch ton projet et que je pitch le projet, qu'on me pose des questions et que je comprends pas ce qu'on me dit quoi. Ça m'arrive souvent en négociation. Sinon, une anecdote honteuse. Bizarrement, je m'en suis quand même pas trop mal sortie cette année avec l'ONG. Du coup, ouais, à part ce vocabulaire de start-up que je maîtrise pas, je pense que je m'en suis bien sortie cette année. Alors, mea culpa pour ceux qui sont venus au lancement presse. Mais le lancement presse, c'était, je m'en rappellerai toujours, hein, le 18 décembre 2019. C'était un mercredi. Le matin à 9h, j'avais rendez-vous plateau live France 3. Je me réveille pas déjà, donc j'y vais en furie. Moi, j'ai vraiment du mal avec les caméras. Donc déjà, c'était mon premier plateau en plus en live. J'arrive en retard, enfin genre vraiment tout juste. Et là, elle me dit, ah bah décidément, c'est la journée, la chroniqueuse est pas là non plus. Donc au lieu que tu fasses 3 minutes, tu vas en faire 9. Où j'étais là, ah super. Et après, j'enchaînais directement à 11h avec Radio Énergie. En parallèle, Adrien, il faisait Virgin parce que c'était au même moment. Du coup, je sors de là-bas épuisée. Avec Adrien, on se retrouve pour faire le débrief parce que forcément, il me chaperonne un peu. Il voulait savoir comment ça s'était passé, ses premières expériences live. Et je relâche un petit peu la pression. Et là, il me fait goûter la nouvelle boisson sur laquelle il est en train de travailler. Et du coup, je bois cette boisson en me disant c'est super sympa cette limonade. Et en fait, il y avait quand même 9% d'alcool dedans. Et du coup, j'étais complètement bourrée après. Et on devait préparer tout le lancement. Et je me suis dit, bah foutu pour foutu, je vais en boire une deuxième.
Non.
Hein. Du coup, la pression, elle est bien descendue, mais je suis arrivée au lancement tremblotante. C'est peut-être pour ça que j'ai vite donné le micro à Adrien quand j'ai dû pitcher, je sais pas. Mais c'est peut-être ma petite anecdote honteuse.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'était de croire en moi et d'essayer de faire en sorte de mener mon projet à bien sans me soucier de la vie des autres. Ça, je pense que c'était vraiment un bon conseil. Parce qu'à partir du moment où on est convaincu que ce qu'on fait c'est bien et qu'on oublie la vie et le regard des autres, on peut vraiment aller très très loin.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.